Monsieur Pingot, des rencontres de Chaminadour.
Alors, les 16e éditions des rencontres de Chaminadour se sont déroulées du 16 au 19 septembre. Donc vous connaissez très bien cet événement pour une 16e édition. Cette année, à l'affiche, Lydie Salvert et Georges Bernanos ont partagé l'affiche de cette édition 2021. Comme les années précédentes, il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer favorablement sur l'attribution d'une subvention fixée à 5000 euros à verser à l'association des lecteurs de Marcel Jouandeau et amis de Chaminadour, d'autoriser Madame le maire à signer les documents à intervenir et d'inscrire les crédits nécessaires au budget 2021.
Bon, juste en précision, on avait mis cette subvention
en... Oui, c'était en réserve, déjà, c'était déjà prévu.
Par contre,
l'association avait un peu de retard sur la demande.
Oui, puis ils n'étaient pas tout à fait sûrs de pouvoir le faire aussi avec le contexte sanitaire, puisque ça regroupe beaucoup de monde. Donc ils ont attendu le dernier moment pour être sûrs de l'organiser. Voilà, mais c'est la même subvention que chaque année. Y a-t-il des questions sur ce dossier de Chaminadour? Non? Non. Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Pingot, Forêt Folies.
Alors, le festival Forêt Folies a proposé pour son édition 2021, qui s'est déroulée du 11 au 12 septembre, une soirée musicale d'ouverture qui s'est déroulée Place Bonnuau. Donc ça s'est déroulé le soir du 10 septembre. Cette soirée de concert appelée Guéret Folies était gratuite. À ce titre et au vu de l'importance de cette organisation dans un contexte sanitaire toujours contraint, l'association Creuse Oxygène qui porte ce festival a sollicité une subvention exceptionnelle. Aussi, au vu de ce qui précède, il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer favorablement sur l'attribution d'une subvention fixée à 1000 euros à verser à l'association Creuse Oxygène, d'autoriser Madame le maire à signer les documents, à intervenir et d'inscrire les crédits nécessaires au budget 2021.
Y a-t-il des interventions? Monsieur Dubois.
Oui, on se pose aussi la question là, sur la compétence effectivement de la collectivité mairie sur ce type de prestation qui est quand même plutôt lié au sport, à sport nature. Est-ce que là, on n'est pas sur une compétence aglo et pourquoi on donne donc 1000 euros à Creuse Oxygène sur ce sujet-là?
Alors moi, je le classerais davantage sur une compétence culture, parce qu'on était sur une prestation qui était culturelle, qui était une prestation musicale et de spectacle de rue, donc pas grand-chose à voir avec les sports de pleine nature. Effectivement, on ne finance pas Creuse Oxygène, la ville apporte un soutien important sur le plan logistique, on prête du matériel, on prête de la main-d'œuvre. Par contre là, on était vraiment sur une manifestation qui était culturelle et donc on l'a classé dans ce cadre-là. Voilà. Donc la Côte d'Aglo n'a pas de compétences culture, monsieur.
D'accord, vous m'excuserez, je ne savais pas que Creuse Oxygène était une association de type aussi culturel. Excusez-moi.
Y a-t-il d'autres interventions?
Je vais quand même réagir parce qu'effectivement, Creuse Oxygène n'est pas une association typiquement culturelle. Par contre, j'espère pour vous que vous avez assisté à cette soirée qui nous intervenons en tant que ville de Guéret à hauteur de 1000 euros. Sur le budget général, vous demanderez justement à Creuse Oxygène le budget qu'elle a investi pour la ville de Guéret. Je vous rappelle que le spectacle était entièrement gratuit, ouvert à tous, avec des contrôles sanitaires compliqués. Donc voilà, des associations comme celle-ci, je préfère au nom de la mairie les remercier, les aider, que justement les classer en leur envoyant un typique de ce genre. Merci.
Si à chaque fois qu'on pose une question, vous estimez que c'est une pique, on ne va plus poser de question du tout, monsieur Pingot.
Non, ce n'est pas une pique, mais c'est vrai que c'était un spectacle qu'on ne peut pas qualifier de spectacle de sport de pleine nature. Sur les compétences, je pense qu'on n'est pas toujours aussi regardant, parce que... Bon, la Com d'Aglo n'a pas de compétences culturelles, elle subventionne le check-in party. Donc, écoutez, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que chacun, de son côté, peut-être aide les organisations qui lui semblent les plus judicieuses. Et ce que dit Ludovic est vrai. On a vu une ville de Guéret avec des enfants de 2 ans jusqu'à des personnes âgées de 80 ans qui étaient subjuguées par ce qui nous a été montré. C'était, on en a fait des spectacles à cette hauteur de qualité, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, bon, c'est dommage de faire la fine bouche parce qu'on a vraiment fait plaisir à des gens en plein air après une période sanitaire compliquée. C'est un club qui a accepté de descendre sur Guéret pour faire une ouverture. Il n'était pas obligé. Traditionnellement, on est dans la forêt de Chabrières et on sait que beaucoup de Guéretois ne peuvent pas y monter. Donc voilà, c'est un geste symbolique pour une prestation qui leur a coûté 8000 euros, sur laquelle vraiment on voulait surtout dire ben merci parce que les Guéretois ont été ravis. Et voilà, donc il y a des fois où les questions de compétences doivent peut-être s'effacer devant ce qu'on peut apporter à nos concitoyens. Et voilà pourquoi on vous le propose ce soir. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez.
Puis on n'a pas du tout prévu de voter contre en plus cette subvention, mais je crois que la question, elle se pose légitimement, puisque Forêt Folies, c'est un événement plus global. Alors après, on peut effectivement scinder, dire ça c'est de la culture, ça c'est pas de la culture. Je crois que la question, c'est plutôt la question des compétences et de la bonne articulation au service des habitants, bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Donc, je vous propose de mettre ce dossier au vote. Donc, y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Madame Tonduf, l'avenant 1 à la Convention au PAERU.
Oui, donc par délibération du 30 juin 2020, le conseil d'administration de l'AMA a proposé la mise en place de 2 nouveaux régimes d'aide à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2023 pour améliorer qualitativement des immeubles situés en cœur de ville, dont le financement de la rénovation des façades. Il est désormais possible pour l'ANA, sous certaines conditions, de financer une intervention sur les façades lorsque le logement ne nécessite pas d'autres interventions importantes, du type rénovation énergétique ou travaux lourds. Donc cette nouvelle aide prend la forme d'une subvention de 25% maximum dans la limite d'un plafond de travaux de 5000 euros hors taxes par logement, quel que soit le type de demandeur de subvention de l'ANA, propriétaire occupant sous condition de ressources, propriétaire bailleur ayant conventionné avec l'ANA ou syndicat de copropriété. Donc cette aide de l'ANA vient obligatoirement en complément d'une aide de la collectivité d'au moins 10%. La communauté d'agglos du Grand Guéret, par la mise en place d'une OPARU et l'existence de l'opération d'incitation à la rénovation des façades, peut ainsi bénéficier de cette expérimentation sur le périmètre de l'OPARU. Donc l'expérimentation ANA devant faire l'objet d'un avenant à la convention de programme opération en vigueur, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 de cette convention OPARU annexée à la présente délibération et d'autoriser Madame le maire à signer cet avenant.
Donc même remarque que sur des dossiers précédents, la semaine dernière, l'AGLO a validé cette délibération. Y a-t-il des questions, Monsieur Vernier ?
Non, pas du tout.
J'ai cru que
ce dossier...
Bien. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Une opposition ? Des abstentions ? Je vous remercie. Madame Brunet. Une opposition de Madame Brunet. Madame Tonduf, la mission de programmation pour le... Ah, pardon, Madame.
Excusez-moi. Est-ce qu'on peut justifier un peu pourquoi on dit on vote contre ? Voilà. Ce vote contre, il est simplement symbolique. Il va rien changer au niveau, nous, du conseil municipal. Ce vote contre, il est en soutien aux Guéretois. Parce que j'ai pas été élue uniquement pour mettre en place des stratégies politiques qui concernent notre ville dans l'entre-soi, ça c'est mon regard, je prends plutôt le fait d'avoir été élue pour soutenir et pour défendre les Guéretois. Je suis effectivement pas très dans la politique, je n'ai menti à personne, c'est-à-dire que depuis le début, même les personnes qui m'ont élue savent que je suis plutôt une personne de terrain et ce n'est pas incompatible avec la politique. Et donc justement, en étant quelqu'un de terrain, je me rends compte, en étant dans la proximité avec les Guérétois, que les Guérétois sont mal informés de pas mal de choses. Et petit à petit, en découvrant certaines choses, alors on va prendre l'exemple, par exemple, de l'augmentation de la taxe foncière, il y a une méconnaissance qui fait que les personnes ne sont pas en mesure de comprendre que nous, au niveau de la mairie de Guéret, nous n'avons pas toutes les billes pour pouvoir prendre des décisions concernant notre ville et que les Guérétois se sentent un petit peu dépossédés de leur ville. Et aujourd'hui, je vote contre, puisque effectivement, si on regarde le maître d'ouvrage, c'est la communauté d'agglo. Voilà. Et ce contre, il vient simplement de manière symbolique en soutien aux Guérétois qui, peu à peu, commencent à découvrir des choses et à avoir le sentiment d'être un petit peu dépossédés de leur ville. Voilà.
Merci. Oui, bon, je partage certaines de ces réflexions concernant l'inquiétude et la difficulté des Guérétois à se positionner entre la ville et l'agglo. C'est compliqué, c'est douloureux aussi en ce moment. Après, il n'y aurait pas d'OPA-RU et il n'y aurait pas d'action cœur de ville s'il n'y avait pas l'agglo avec la ville. Donc ça fait partie de ces conventions et de ces nécessités de travail en commun fortes, parce que l'un sans l'autre sur des conventions de ce type, on n'existe pas. Autant je m'étonne du vote contre sur une convention qui aide les Guérétois à rénover leur bâtiment, à rénover leur façade, mais ça t'appartient, autant je me sens concernée par ce que tu dis sur l'interrogation des Guérétois sur qui fait quoi, comment s'organisent les choses et qui impose quoi à qui. Donc voilà, je souhaitais te dire. Monsieur Vernier.
Je vous entends et vous êtes libre de parole et d'action. Je veux souligner là, par contre, alors, dire que l'agglo dans cette affaire-là, et notamment l'un de ses vice-présidents, alors je ne veux pas personnaliser les choses, mais on travaille aux côtés de la ville d'une manière vraiment très intéressante. Moi, je l'ai suivi un peu avant. Là, je ne suis pas venu aux dernières réunions parce que je m'étais absenté un peu pour raisons personnelles. Mais y a un regard de l'agglo, notamment sur le voie rue, hein, qu'on ne peut pas faire les uns sans les autres. Et le vice-président qui est en charge de ce dossier est quelqu'un qui défend la ville de Guéret comme on doit la défendre, bien que n'habitant pas lui-même Guéret. En tous les cas, moi je l'avais souligné avant et je tiens à le ressouligner, le travail qu'il fait est un travail franc, honnête et au service de la ville de Guéret. Sur ce dossier, je ne parle pas de la taxe foncière.
En tout cas, je confirme les dires de M. Vernier sur le vice-président qui est chargé de l'habitat et de l'OPA-RU. Effectivement, il est toujours l'intérêt de Guéret prime toujours dans ses propositions, et ça, il faut le souligner.
Mon intervention n'était pas pour remettre en cause les décisions qui sont prises et le fait qu'on travaille ensemble. Là, mon intervention, elle était symbolique. Elle était simplement pour...
Non, mais j'ai entendu.
Voilà.
Bien, nous avions voté, donc on... Si personne d'autre n'a quelque chose à dire, on va passer sur le dossier suivant, Madame Tondouf. Donc, le réaménagement des espaces publics en cœur de ville.
Oui, alors la ville de Guéret et ses partenaires ont formulé dans la convention cadre Action Cœur de Ville, signée le 28 septembre 2018, un objectif de redynamisation de la centralité de Guéret. Donc ce renforcement du centre-ville de Guéret passe par une intervention coordonnée sur plusieurs dimensions, donc 5 axes d'action, l'amélioration de l'habitat en centre-ville, le développement économique et le commerce, le développement de l'accessibilité, de la mobilité, des connexions, la mise en valeur des formes urbaines, l'espace public, le patrimoine, et fournir l'accès aux équipements et services publics. Dans ce cadre, le programme d'action ACV de Guéret prévoit la réalisation d'une mission de programmation pour le réaménagement des espaces publics du cœur de ville de Guéret. Il s'agit d'accompagner la ville dans le choix d'un projet cohérent, ambitieux mais réaliste sur le plan programmatique et financier pour la reconquête des espaces publics du centre-ville, intégrant une démarche de développement durable et de concertation. La ville de Guéret souhaite assurer et favoriser l'accessibilité au centre-ville des habitants du bassin de vie en identifiant et en traitant les parcours d'accès au centre-ville. Elle souhaite également rééquilibrer les usages de l'espace public, majoritairement dédié à la voiture, au profit en particulier des usages piétons et des usages récréatifs, déambulation, pause, terrasse. Le réaménagement des espaces publics doit contribuer à améliorer la lisibilité du parcours marchand, à valoriser la dimension patrimoniale du centre-ville historique ou encore à développer la présence du végétal en ville. Elle souhaite également s'inscrire dans une démarche environnementale, dans la conception et la gestion des espaces publics, par une réflexion sur la gestion des eaux pluviales, les alternatives à l'imperméabilisation des sols et l'adaptation au changement climatique par des aménagements simples et sobres, adaptés et à des coûts globaux maîtrisés. Cette mission, dont le coût s'élève à 51 312,50 € hors taxe, peut être financée par la région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires, conformément au plan de financement 6 juin. Donc vous avez les détails dans le tableau. Et donc au vu de ce qui précède, il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer favorablement sur ce dossier, de solliciter les subventions mentionnées et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents à intervenir.
Merci Madame Tonduf. Donc vous retrouvez là les maîtres mots de notre idée du cœur de ville, l'accessibilité, le réaménagement des espaces publics, la dimension patrimoniale, le végétal en ville, l'adaptation au changement climatique et tout ça avec un coût maîtrisé. Donc je pense que tout est dit dans le rapport. Et il faut rajouter une dimension qui n'est pas anodine, c'est aussi le lien entre les quartiers qui fait partie aussi du travail de ce cabinet, le lien entre tous les quartiers de la ville, mais surtout le lien entre le quartier Albatros et le centre-ville. Voilà. Donc vous dire que c'est le cabinet Citadia qui fait ce travail pour nous, c'est un cabinet qui est de Lyon et qui sous-traite avec le réseau InfraLim sur le plan local. Voilà. Est-ce que Madame Bonin?
Oui, j'avais deux questions. La première, déjà évoquée en commission mixte, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà eu un certain nombre d'études qui ont été faites, notamment un travail important sur Guéret 2040 qui projetait déjà une vision de l'espace public de notre ville. Alors c'est peut-être notre impatience à voir les choses se réaliser sans doute. Vous m'aviez expliqué en commission mixte que cette étude allait plus loin, plus finement, etc. Donc on veut bien l'entendre. L'autre question, elle est pour le coup très concrète. J'ai remarqué le démantèlement ou le démontage des plots blancs devant la rue, on va dire devant le cabas creusois, pour que tout le monde me comprenne, donc qui était un bel exemple de ce qu'on appelle l'urbanisme stratégique, c'est-à-dire de pouvoir expérimenter, tester des aménagements qui, pour le coup, fonctionnaient bien. Je pense que tout le monde s'y était habitué, autant cyclistes, piétons qu'automobilistes, qui ne semblaient pas faire débat, en tout cas. Et ce démontage, nous, on l'a découvert un peu, un peu par surprise. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui avait été débattu dans une commission? Est-ce que ça répond à des contraintes particulières? Enfin, voilà, c'était un élément d'éclairage sur ce point que nous souhaitions.
Bien, je peux répondre sur les études. La seule étude qu'on ait mandatée, à part l'avenant ORT, c'est celle-ci. Toutes les autres études l'ont été sous la mandature précédente, effectivement.
Oui, mais ce n'était pas dans le cadre d'un reproche.
Il y en a eu beaucoup. Celle-ci était prévue dans la convention ACV, donc elle n'est pas à notre initiative. C'est juste une mise en place de la convention ACV, et c'est la dernière étude qui était prévue à la convention ACV, qui date de septembre 2018.
Donc on ne fait que formaliser le contenu de cette convention, et avec le dernier axe qui était effectivement l'urbanisme, après avoir parlé du stationnement, de la circulation, de la signalétique, enfin de l'élégance urbaine, tout ce qui avait été mandaté auparavant. Donc on finit les études que prévoyait la convention ACV. Voilà. Donc en ce qui concerne l'aménagement devant le CABA, il avait toujours été dit qu'il était temporaire parce qu'il prenait une partie de la chaussée. Et donc, contrairement aux terrasses des deux cafés, celle-ci amputait la chaussée. Et donc, on avait bien dit que c'était quelque chose de temporaire, fait à titre expérimental. Et si ça doit se transformer en un aménagement définitif, il faut qu'on le traite avec la com d'agglo, parce qu'il y a le passage des bus. Et ça posait des questions sur si on le pérennisait par rapport aux arrêts bus et au décalage que ça pouvait provoquer. Donc, on va retravailler ça pour faire quelque chose dans une étude un peu plus globale du sens de circulation sur la place Bonniot. Et puis il y a aussi le fait que le CABA ferme quand même relativement régulièrement, et que amputer la chaussée d'une façon durable, c'était difficilement justifiable, comme d'ailleurs la terrasse du bar de la Poste qui empiète sur la rue, et qui là aussi va être revue parce que on avait bien dit que c'était des aménagements transitoires. Après, où je vous rejoins, c'est que ça a plu, il n'y a pas eu de protestation sur cet aménagement, les gens se sont habitués à perdre cette voie, et je dirais tant mieux, parce que ça va bien dans l'idée, dans la démarche qui est la nôtre, d'habituer les gens doucement à vivre leur place Bonniot différemment, et à se dire on n'a pas forcément besoin de quatre voies de circulation, on n'a pas forcément besoin de ce bout de trottoir ou de ce bout de place, et donc de nous permettre de progresser tous ensemble sur ces aménagements. Puis ma dernière remarque, c'est que tout ça, ça a été débattu en commission au cœur de ville. Et donc, je pense que si vous y assistiez, vous n'auriez pas ces questions à poser en conseil municipal.
Je me doute, je n'y siège pas à titre personnel. Et de toute façon, ces questions interrogent plus largement l'ensemble du conseil, de toute façon. J'ai le souvenir pourtant d'assister aux commissions circulation et sécurité routière, où effectivement, ça a aussi été débattu, cet aménagement, avec notamment les associations présentes, le commissariat et peut-être l'aglo ou les services.
Oui, mais les services.
En tout cas, et justement, j'avais le souvenir que cet aménagement ne faisant pas débat, dans ma tête, le pérenniser était une façon, effectivement, comme vous le disiez, en fait, je pense qu'on a la même analyse, mais je déplore le fait qu'il ait été démonté, et nous le déplorons, parce que c'est vrai, quand les gens s'habituent, c'est dommage, en fait, de donner une impression d'arrêter, de revenir en arrière. Et en plus, est-ce qu'il faut certains aménagements en fonction, en particulier, de tel commerce, de tel restaurant? Je ne le crois pas, mais voilà.
Après, on a justement cette programmation là du travail du cabinet Citadia qui réfléchit sur tous ces usages et sur tous les sens de circulation et l'usage que font les gens de l'espace public. Donc avoir des équipements non pérennes, ça nous permet aussi d'écouter ce qu'ils vont nous dire au rendu de leurs études et de pouvoir changer notre fusil d'épaule si nécessaire, ou au contraire pérenniser des équipements. Donc on est plutôt sur du mobile, du précaire, en attendant que Citadia nous ait rendu son étude. Voilà.
Si vous permettez juste une petite précision sur l'expérimental qui a déjà été expérimenté l'année dernière. Nous avions fait exactement le même aménagement et donc j'approuve celui-là, puisqu'on avait fait le même, et nous l'avions aussi retiré à peu près à la même époque, et je confirme bien que quand on est en contrat avec un certain nombre de personnes, on a des obligations, y compris d'études. J'avoue que cela m'avait un peu et continue à m'irriter qu'on aille d'études en études, parce que je trouve que ça fait beaucoup d'études, mais vous en avez obligation. Donc je ne vous en veux pas, mais franchement, on se demande si c'est pas pour nourrir un peu les cabinets, et ça m'agace un petit peu cette affaire, et je pense que ça vous agace aussi. Alors une question très terre à terre, mais qui n'a rien peut-être qui m'a échappé. J'ai vu que Monsieur Germain était parti.
Oui.
Et je pense qu'on a besoin d'un chef de projet. Est-ce que vous êtes en recrutement? Est-ce que vous avez trouvé? Parce que comme je l'ai dit, je suis parti un peu, donc m'a peut-être échappé quelque chose. En tous les cas, j'ai juste eu. Je n'avais pas à avoir autre chose, mais un petit mot de M. Germain pour me dire qu'il partait, mais vous avez, toute façon, là aussi, le chef de projet est obligatoire.
Alors, pour répondre à la première question, effectivement, on a tous été un peu agacés par la succession d'études. On était tellement perdus qu'on a demandé à la Banque des Territoires de nous financer une synthèse de toutes ces études pour essayer d'en dégager enfin des axes liés à...
Une étude
à
sur les études.
Publique. Non, c'était une synthèse, mais une synthèse judicieuse qui nous a montré qu'effectivement, il y avait des choses à prendre et puis il y avait des choses peut-être qui étaient tout à fait secondaires. Donc, on a aussi présenté cette étude en commission, mais elle est à votre disposition. Je pense qu'elle est extrêmement intéressante. Et enfin, on voit clair sur notre convention Cœur de Ville et les choses qu'il y aurait à mettre en place sans contradiction, heureusement, parce qu'on aurait pu aussi penser que les études se contredisent. Et là, on aurait été extrêmement en difficulté. En ce qui concerne donc le directeur de centre-ville, effectivement, Monsieur Germain donc a souhaité pouvoir se libérer du contrat. On a recruté, ça y est, un nouveau directeur de centre-ville qui nous arrive en décembre, Élodie, hein, c'est ça, qui nous arrive au 1er décembre, qui est quelqu'un qui a une très très grande expérience des conventions cœur de ville, qui a travaillé dans de beaucoup plus grandes villes que nous, et qui a maintenant, qui regrettait d'avoir perdu un peu le contact avec le terrain, d'être sur du management de grosses équipes, sur des gros projets, et qui souhaitait donc revenir sur un territoire plus rural et sur un terrain où il pourrait vraiment mettre aussi les mains dans le cambouis, et c'est absolument ce dont on avait besoin. Donc c'est quelqu'un qui est hyper qualifié, mais qui nous a semblé aussi très dynamique, qui arrive de Dijon et qui sera là donc le 1er décembre et qu'on vous présentera bien sûr à son arrivée. Voilà, mais je pense qu'on a fait un excellent recrutement.
Je connais bien Dijon et son maire. Je peux avoir quelques renseignements.
Est-ce qu'il y a d'autres...
Mais je vous fais confiance, hein. Je ne sais pas faire mieux.
On avait trois candidats, hein. C'est aussi des postes extrêmement qualifiés, un petit peu atypiques. Et on a eu trois candidats, deux très corrects, et lui nous a vraiment séduits. Voilà.
Parfait. Donc début décembre.
Début décembre, le 1er décembre, il arrive. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou d'autres questions sur ce dossier? Bien, donc je vais le mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Madame Tonduf, Lilo Carnot.
Oui, donc avant de vous parler du lancement du nouvel appel à projet, je vais vous faire un petit récapitulatif. Quant aux différents positionnements et aux décisions prises concernant l'îlot Carnot. Donc, lors du conseil municipal du 25 juin 2020, ont été validées par l'ancienne équipe municipale les modalités de l'appel à projet qui portaient sur la création d'une offre habitat sur l'arrière de l'îlot. Aucune candidature n'avait été alors enregistrée dans les délais impartis. Nous, à notre arrivée, nous nous sommes bien évidemment intéressés de près à ce dossier. La visite des lieux avait été un coup de cœur pour certains d'entre nous, notamment sur la partie imprimerie, qui présentait un charme architectural de type industriel. L'idée d'y implanter les halles nous paraissait alors très intéressante. Il nous a paru nécessaire de prendre conseil auprès de personnes qualifiées pour évaluer le critère faisabilité de cette rénovation. Après avis d'experts, réhabiliter aurait été trop coûteux. Nous nous rangeons donc à cette décision qui se voudra être un choix de raison, soucieux de l'équilibre financier du budget de la ville. La réhabilitation ne pouvant se faire, la démolition est évoquée, mais sous quelle forme? Totale, partielle? L'ABF, elle, préconise de garder la tête d'îlot puisqu'elle incarne l'emplacement des portes des anciens remparts de la ville. De plus, des logements à l'étage ont été réhabilités et sont occupés. Ces arguments pris en compte, la commission Cœur de Ville décide de préserver la tête d'îlot sans pour autant en avoir la maîtrise foncière. Donc, contrairement au projet de l'ancienne équipe, nous renonçons à cette maîtrise foncière de la tête d'îlot pour des raisons budgétaires. Donc une somme importante entre le coût de l'acquisition d'immeubles en très bon état, des indemnités d'éviction à verser aux commerces présents au rez-de-chaussée, sans oublier une très longue procédure en lien avec une expropriation. Donc ainsi, Après avoir évoqué ces différentes options au sein de la commission Gordeville, notre choix se porte sur la démolition, donc des parcelles BE 64, 65, 66 et 67, avec un projet de commerce et de restauration. Donc l'idée de créer un passage entre le boulevard Carnot et la rue du Prat nous paraît intéressante afin d'y proposer notamment un espace piéton sécurisé. Donc un appel à projet sera rédigé dans ce sens dans un premier temps et pourra être évolutif s'il n'y a pas de candidature au terme de ce dernier. Donc, situé en périmètre prioritaire d'intervention publique, le projet bénéficiera d'un bon niveau de prise en charge du déficit foncier d'opération avec le soutien de l'État, de l'EPF Nouvelle-Aquitaine. Donc, il est rappelé que l'appel à projet vise à recueillir les propositions d'opérateurs et d'investisseurs immobiliers et sélectionner dans un cadre transparent le meilleur projet au regard des objectifs énoncés. Le règlement de consultation est joint en annexe. La sélection s'opère en deux phases. La phase de candidature, à l'issue de laquelle deux candidats sont autorisés à remettre une offre, donc la phase offre. La sélection est opérée par un jury local. Le calendrier suivant est proposé. Donc une date de lancement de la consultation au 1er octobre 2021. Une visite collective de site le 22 octobre 2021. La date de remise de candidature, donc la fin de la phase 1, le 26 novembre 2021. Et une annonce des candidats autorisés à remettre une offre le 24 décembre 2021. Merci. Date de remise des offres, fin de la phase 2, le 27 mai 2022, sélection du lauréat, le 24 juin 2022. Donc, pour mémoire, cet appel à projet bénéficie du financement de l'État, donc comme il est détaillé suivant. Donc, après avoir déclaré infructueux l'appel à projet visé dans la dite délibération dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est donc proposé aux membres du Conseil d'autoriser le lancement d'un nouvel appel à projet portant sur l'îlot Carnot, selon le règlement de consultation joint en annexe. Monsieur Vernier.
Bien, Corinne, si vous permettez, puisque vous avez cité l'ancienne municipalité, moi je parlerai, je vais vous dire que je suis très étonné, non pas parce que vous faites, parce que je fais confiance et je travaillerai avec vous, je l'ai dit, sur ce sujet. Ce sujet n'est pas un sujet où il y a lieu de se chamailler et tout, il faut réussir. J'affirme ici, les services sont là, ils pourront le vérifier dans les conseils, que l'EPF, alors que je ne le souhaitais pas à titre personnel, nous a conseillé de prendre tout l'îlot, y compris l'entrée sur la rue Martin-Nadeau qui rentre sur la préfecture, pour l'élargir, sinon nous n'aurions pas de porteur de projet. J'étais à titre personnel, on pourra le constater dans les débats, dans les délibérations, plutôt orienté sur ce que vous proposez là. Et les deux choses, sur l'expropriation, c'est l'EPF qui s'en charge. Donc, le problème du délai, ils savent faire. C'est eux qui ont... je ne veux dire pas l'expropriation. Enfin bon, c'est eux qui se chargent des démarches administratives. Mais c'est eux qui nous ont demandé. C'est eux qui nous ont demandé de mettre la totalité de l'îlot dedans. Je me souviens de discussions avec les services où j'ai dû me faire un peu violence pour l'accepter. Sinon, nous n'aurions pas de porteur de projet. Et j'ai reçu de manière très informelle, j'étais d'ailleurs assez optimiste en disant « Mais mon vieux, tu t'étais trompé, deux porteurs de projet à l'époque, alors d'une manière informelle, qui sont venus se renseigner, parce que les visites, on les a faites, hein, de la cave au grenier, on connaît parfaitement les choses. C'est un sujet important, sérieux. Alors donc, on soutiendra... le travail, enfin je soutiendrai, je pense que d'autres le font, le travail qui est fait, c'est pas facile. Mais très franchement, ce virement sur l'aile de l'EPF, qu'il faudra rembourser à un moment donné. Hein.
2024.
Mais on connaît les risques, ils sont pas, pour la ville, ils sont pas aussi élevés que ça, on avait fait les calculs. Au cas où ça marche pas, c'est pas une histoire pour la ville qui amènerait la ville à être dans des difficultés très grandes, de l'ordre de 300 000 euros, si ma mémoire est bonne, à charge de la ville au bout. Hein. Donc bon, c'est pas par rapport à ce que ça représente. Alors, juste, donc, oui, je suis à vos côtés pour ça, mais je suis stupéfait quand j'ai lu ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. On ne peut pas raconter aux gens, et j'affirme, que l'EPF nous a demandé de mettre la totalité de l'îlot à l'époque si on voulait avoir des porteurs de projets. Parce que j'ignore pas, comme vous, qu'il y a des logements occupés au-dessous. D'ailleurs, j'avais pensé à un moment donné qu'on pourrait peut-être faire des arcades pour garder les logements, faire une forme d'arcade en dessous. Ça se construit très bien, qui élargissait à la fois la rue mais gardait les logements. Donc c'est pour vous dire que dans cette affaire-là, toutes les bonnes volontés et toutes les intelligences sont bienvenues. Ce qui me sidère ici, c'est ce changement de pied des donneurs d'ordre, pardon, parce que s'il n'y a pas l'OPF, on n'achète pas. Jojo Lecomte est encore propriétaire de son imprimerie si on n'a pas quelqu'un qui nous avance l'argent. Voilà, donc très bien. Je le dis, c'est pas une question, c'était voté à l'unanimité. Donc c'est pas une question d'ancienne majorité ou opposition, machin, tout le monde a voté. Mais je suis plus rassuré par ce projet-là, j'ai juste une interrogation sur la restauration, je vous le dis. Et on en parlera dans le travail. Il y a beaucoup de restaurations sur le cœur de ville. Je ne sais pas s'il y a la place pour de la restauration supplémentaire. Voilà, c'est tout. Mais pour le reste, je suis à vos côtés. Mais je voulais dire ça quand même. Vous savez, on n'est pas des sachants. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et on a autour de nous des gens qui viennent, qui nous conseillent, qui nous disent et qui affirment. Et oui, on m'a convaincu, difficilement, mais qu'il fallait mettre la totalité de l'îlot, qu'il fallait ouvrir sur la préfecture, et donc, comme vous voulez le faire, sur la grande rue. Et alors, je ne sais pas si par la rue du Prat, c'est la même chose, mais en tous les cas, logement, commerce, et tout, c'était prévu comme ça. Et moi, j'avais vu un porteur de projet, alors, il avait travaillé sur Tours, et j'étais assez optimiste. Ça veut dire qu'il n'a pas donné suite, quoi. Et ça va être très compliqué. Donc on a besoin de se rassembler, de se serrer les coudes. Il faut réussir cette opération îlot Carnot, cette opération cœur de ville. Et vous n'aurez pas de ma part, à part des remarques comme celle que je viens de faire, c'est est-ce qu'il y a de la place encore pour un restaurant. Alors les gens qui me disaient, oui, mais un restaurant de grande qualité, il y en a un à Guéret, pas loin, hein, qui fait de la qualité. Donc il ne faut pas qu'on en installe un pour tuer les autres. Enfin, mais ça, c'est la réflexion à venir. Je pense qu'il y aura une étude de marché qui sera faite, qu'on regardera les choses ensemble. Mais bon courage, on vous aidera, parce que c'est vraiment un dossier compliqué. Vous savez, hein, on a passé des moments difficiles avec ce cœur de ville, avec cette grande rue telle qu'elle est devenue, le départ des nouvelles galeries, le départ de Vivès et des choses comme ça. Ça a été... voilà. Et puis, sans doute, on n'a pas su faire. Moi, j'ai dit, un des échecs qui est le mien, enfin, il faut le dire des fois quand on le sent, moi, je suis très meurtri par ce qui s'est passé. Alors après, on me dit qu'il ne fallait pas faire la zone là-bas. Oui, sauf que ce n'est pas comme ça. Terrain privé, promoteur privé, et c'est toujours plein. Donc attention aussi à ce que pensent les gens. Mais voilà, je voulais dire ça, parce que d'un air de dire, vous aviez été trop gourmand, vous ne fallait pas faire ça.
Non, c'était pour faire un récap de ce qui...
Eh bien, moi je vous affirme, voilà, vraiment ici devant le nouveau conseil municipal, que nous avons été convaincus par l'EPF qu'il fallait mettre la totalité de l'îlot pour qu'on ait une chance d'avoir un promoteur. Voilà. Et il doit bien y avoir un conseil municipal semblable à celui-ci où ces réflexions ont été dites, enregistrées. Et croyez-moi, on a eu du mal à me convaincre de ça. Parce que c'était compliqué. L'idée des arcades, ceci dit, ne déplaisait pas. Voilà, pardon. Mais je voulais dire ça parce que on est tous les héritiers de quelque chose. Nous, ce qu'on a fait, même si vous héritez de choses, eh ben, ce qu'on a fait, on l'a fait pour Guéret. Alors on a eu raison, on s'est trompé, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on n'a jamais fait de choses contre cette ville.
Non, bien sûr. Hein,
et là-dessus, moi je vous le redis parce que c'est le sujet sur lequel qui m'a convaincu peut-être d'ailleurs de rester au conseil municipal. Je vous le dis parce que entre nous, il faut aussi laisser les choses. Mais dire, sur ce sujet, si je peux encore venir aider pendant quelques temps, eh bien, je viendrai. Voilà, donc vous pouvez compter sur moi.
Donc la dernière chose, c'est que si aussi on a tourné cet appel à projet, donc plus vers un versant commerce-restauration que sur de l'habitation, c'est parce qu'il y a d'autres projets de construction de résidences et qu'en fait, on ne va pas non plus multiplier.
Je les ai rencontrés et je partage votre avis sur la préférence qu'on doit donner. C'est la restauration qui m'interroge.
On verra suivant les réponses à notre appel à projet. C'est encore quelque chose qui peut être évolutif en fonction des réponses qu'on aura, hein, bien sûr.
Et c'est surtout quelque chose qu'il faut qu'on parvienne. Vous voyez, je dis « on » volontairement. Et si on le porte à votre crédit, tant mieux, je m'en fous. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on doit réussir.
Oui, je crois qu'on partage tous l'attachement à Guéret avant tout, et les remarques que nous faisons dans cette enceinte ont pour objectif de transformer notre ville et rien d'autre. Merci Madame Tondeuf de cette présentation exhaustive qui répond à pas mal des remarques que nous avions pu faire en commission mixte ou qui les reprécise. Et ça me permet, suite à ce que j'entends depuis plusieurs minutes, de rappeler que les commissions, en fait on en fait tous partie, on travaille, c'est très bien, mais que c'est bien le conseil municipal qui est souverain et que reposer le débat en conseil municipal permet une information large, bien sûr des élus municipaux, mais aussi des habitants grâce à la presse, aux médias qui sont présents. Donc nous notons effectivement l'articulation que vous avez soulignée avec les projets habitat en cours sur la ville et donc cette dimension habitat qui a été supprimée de l'appel à projet, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant. La dimension patrimoniale à laquelle nous sommes que vous êtes attachés, puisque c'est vrai que un projet phare de votre programme, c'est quand même le petit théâtre. Et c'est vrai que j'ai pu souligner déjà à plusieurs reprises, notamment l'an dernier, ce que moi j'appelle une forme de paradoxe quand même, c'est effectivement tous les patrimoines sont intéressants. Ce patrimoine industriel, vous l'avez d'ailleurs souligné en préambule, Madame Tondeuf, est un témoignage intéressant. Malheureusement, le fait de le sacrifier, nous le déplorons. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet appel à projet. Vous évoquez de nombreux avis d'experts. Donc, moi, j'imagine que vous avez consulté le CAUE et effectivement les bâtiments de France dont vous avez parlé, qui a toujours été favorable, l'ancien comme le nouveau, la nouvelle, à la préservation de la tête d'îlot. Mais c'est vrai que leur position plus précise sur l'imprimerie dite Le Cant, du coup, nous intéresse. On l'écrivait déjà il y a un peu plus d'un an, mais toujours, nous pensons qu'une destruction, elle est toujours coûteuse. Elle est coûteuse financièrement, mais elle est toujours coûteuse aussi symboliquement. Et on a pu évoquer des projets passés qui auraient pu être aussi détruits et qui finalement ont été préservés, et on en est satisfait aujourd'hui. Donc la seule, j'allais dire, note d'espoir, c'est que j'entends que cet appel à projet ne verrouillant pas tout, une destruction peut-être partielle, en tout cas est possible, et non totale, c'est ce que vous avez laissé entendre, je ne le vois pas apparaître dans l'appel à projet, mais c'est ce que vous avez laissé entendre dans votre préambule, donc je voulais vous interroger là-dessus.
Alors une destruction partielle parce qu'on maintient la tête d'îlot. Donc selon les recommandations de l'ABF.
Donc nous, on s'est mal compris. Donc les recommandations de l'ABF porteraient uniquement sur la tête d'îlot. Bon, oui. Ça, c'est pas nouveau, hein, parce que c'était déjà le cas précédemment. En revanche, l'ABF s'est positionné, en tout cas, pour la destruction d'imprimerie Le Cant sans...
Oui.
Pareil, etc.
En fait, il y a peu de valeur patrimoniale. Nous, on y trouve quelque chose, un intérêt. Comme je disais, certains ont eu un coup de cœur, mais au final, il y a peu d'intérêt patrimonial, voire pas. Et surtout, les architectes qui ont été consultés disent que ça représente une somme de travaux exorbitante, bien plus que de reconstruire des halles de type industriel si vraiment on souhaitait garder ce caractère-là, en fait.
Oui, le patrimoine, à mon avis, c'est notamment les habitants de la ville qui peuvent décider s'il a une valeur un peu plus large et symbolique.
Oui, mais le budget de la ville est à prendre en compte
aussi. C'est un autre sujet, mais la question des choix est au cœur de votre mandat.
Oui, c'est ça.
On a pris conseil de plusieurs architectes et l'architecte des bâtiments de France nous a dit ce bâtiment n'a de valeur que dans vos yeux parce qu'effectivement sur le plan patrimonial il n'en a pas, il est en très très mauvais état, il y a de l'amiante, donc il nous a dit que si on devait le conserver ça nous coûterait effectivement très très cher et donc le choix qu'on a c'est est-ce qu'on sacrifie d'autres aménagements en centre-ville pour garder cette imprimerie qui en fait est à la mode, mais n'a pas de valeur patrimoniale. On aime le style industriel en ce moment, mais ce bâtiment n'a pas de valeur. Il serait extrêmement coûteux. Donc, quand on fait des choix, on fait des deuils. Et donc, on a préféré faire le deuil de cette imprimerie. imprimerie et puis pouvoir investir sur l'îlot Armagnac ou dans le centre-ville à d'autres endroits, parce qu'effectivement on ne peut pas tout faire et on veut que ce projet îlot Carnot sorte, parce que comme l'a dit Michel, ça fait longtemps, il y a eu beaucoup de tâtonnements. Toutes les questions que vous vous êtes posées, Michel, on se les est posées à combien de reprises. On abat pas, on ouvre pas, c'est terrible. Mais il faut que ce projet sorte, parce qu'il est visible, les Guéretois l'attendent. Absolument. Ça fait combien de temps qu'ils voient cœur de ville sur la devanture et il ne se passe rien. Mais on ne peut pas sacrifier le budget de la ville à un bâtiment qui n'a pas de valeur patrimoniale. Mais on y renonce aussi. Pas forcément de gaieté de cœur, monsieur Valls.
Je crois qu'il faut être un peu moins péremptoire sur les notions de patrimoine, parce que il est évolutif. C'est une notion évolutive. Ouais, bon. Et puis après.
Mais on a une architecte des bâtiments de France qui est là pour ça, sur laquelle on doit s'appuyer, parce qu'elle va nous suivre dans tous nos projets. Donc le péremptoire n'est que son avis sur un bâtiment, et je pense que son avis est éclairé, et donc on suit son avis, oui. Mais on n'est absolument pas péremptoire.
Comme vous l'aviez suivi, semble-t-il, à l'unanimité, ce que disait Michel la dernière fois.
Non, pardon François, mais juste qu'il n'y ait pas un mélange des lettres, j'ai parlé de l'EPF, moi, et pas de l'ABF. Hein. Bien d'accord.
Mais après, bon... La notion de patrimoine qui s'entend sur le côté historique de la chose est une chose. Le côté patrimonial, ça, on parle de sous, on parle de notaire, on parle pas de jolis tubes en fer qui montent. Voilà, déjà ça. Deuxième chose, on imagine ce bâtiment parce que de tout temps il a été là. Quand on regarde les photos des années 45, sortir de la guerre, il était déjà là. Et maintenant, est-ce qu'on peut se poser la question de l'ouverture de cette place Bonnot vers la grande descente de la Grand Rue? Et aussi cet accès à Varilhas.
Oui.
Et aussi cet accès à Varilhas. Donc si on essaye d'imaginer une ville avec une circulation moins présente, avec plus de tranquillité pour vivre, on peut se demander si l'ouverture de ce bâtiment, alors sous forme d'arc, après, la réflexion est engagée, sous forme d'arcade, sous forme de passage couvert, sous ce qu'on veut, c'est une autre manière d'aborder la Grand Rue que par les trois trestes de la Civette et...
La porte Martin Nadeau.
Et de la porte aussi. Mais quoique Martin Nadeau n'existait pas quand elle a été construite. Alors, j'ai lu un peu aussi. Donc voilà. Donc faut pas confondre, je pense, déjà patrimoine et patrimonial. Patrimonial, c'est le notaire, quoi. Et qui nous dit que le terrain a plus de valeur presque ce qui est construit dessus. Après, n'oublions pas aussi que, alors plus large, hein, qu'on a quand même de gros soucis de bâtiments qui tombent en ruine.
Oui, oui, je suis d'accord.
On ne va pas en rajouter un autre.
Parce que, effectivement, enfin,
c'est la croix et la bannière, enfin, vous avez été aux affaires avant nous, c'est la croix et la bannière pour pouvoir faire quelque chose pour ces bâtiments-là, ou les démolir, ou les remettre en ordre. Et justement, notre patrimonial qui est en dedans. Donc voilà, il y a des choix.
Et je pense, on nous a bien dit très clairement que si on gardait l'imprimerie Le Cant, les promoteurs ne nous suivraient pas. Donc ça serait un bâtiment qu'achèterait la mairie, assez frais. Et que diraient les Guéretois si au bout du compte on n'en faisait rien? Parce que, étant donné le financement qui serait nécessaire, on aurait de grandes chances dans 4 ou 5 ans d'avoir toujours l'imprimerie dans le même état. Donc soyons raisonnables. Et puis je le redis, on fait des choix qui sont parfois douloureux, mais... il faut les faire à un moment ou à un autre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'îlot Carnot? Donc, on vous demande l'autorisation de lancer cet appel à projet qui, je le redis, s'il est infructueux, donnera lieu à d'autres débats entre nous pour voir comment il faut le requalifier. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions?
Oui, notre groupe vote contre.
D'accord. Donc, vous avez un pouvoir. Oui, c'est bon pour vous? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, un dossier sur la modification du tableau des effectifs, donc je vais faire court. La première modification qui vous est proposée, c'est pour permettre à un agent qui rentre dans les clous de pouvoir obtenir un avancement sur son poste. Donc on vous propose de supprimer un poste d'attaché principal à temps complet pour pouvoir créer un poste d'attaché hors classe à temps complet pour permettre la promotion de cet agent. Donc on n'est pas sur une création de poste, mais sur une requalification du poste d'attaché. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier, monsieur Dubois?
Juste une question, alors je ne comprends pas très bien votre tableau à la fin. Attaché hors classe, ancien effectif 1, nouvel effectif 2, attaché principal, ancien effectif 4, nouvel effectif 5. Ce qui fait qu'ancien effectif, si on additionne les deux, ça fait 5. Nouvel effectif, ça fait 7. Je comprends pas.
Non, on a actuellement 5 postes d'attaché principal. Et dans la nouvelle distribution, on n'en aura plus que 4 et 1 d'attaché hors classe. Donc, on reste sur le chiffre de 5. On a 5 postes d'attaché.
Il faut créer un poste avant de le supprimer.
Voilà, on crée un poste d'attaché hors classe, mais on supprime un poste d'attaché principal. Donc, on reste exactement sur le même nombre de postes.
Bah, votre tableau est mal fait, alors. Parce que attaché principal, ancien effectif 4, nouvel effectif 5, pour moi, il n'y a pas de suppression de poste, là.
Si on arrive à... Mais non, ancien effectif 5, nouvel effectif 4, c'est bien qu'on en supprime.
5 plus 2, ça fait... Alors, on n'a pas le même tableau, madame le maire, je suis désolé.
On n'a pas le même tableau.
Ben, nous, on a 4 plus 1, mais sur la
carotte...
Moi, j'ai attaché hors classe, ancien effectif 1, nouvel effectif 2. Ça, on est d'accord.
Non. Alors,
on n'a pas le même tableau.
Alors, c'est qu'il y a une erreur... Tout le monde a le mauvais tableau sur sa carotte.
Non, on a 4 et 1.
Alors, ben, c'est le...
27 septembre.
Alors, je le redis.
Bon, ben donc... Non, mais si, c'est pas grave, c'est juste.
Non, mais c'est ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que vous ayez. Delphine, tu as quoi, toi, t'as le bon.
Alors, c'est quel. Parce que moi, j'étais dans l'îlot Carnot encore. Page 21. Page... C'est le point 21, c'est ça.
Si vous avez deux, c'est la commission.
Ah, mais parce qu'il y a deux tableaux, c'est
voilà. Peut-être... Vous avez. Alors, je vous explique. Sur le dossier de la commission mixte, on avait fusionné deux rapports. Et pour plus de clarté, on vous les a désolidarisés. Donc, vous allez retrouver effectivement une autre création de poste un peu plus loin. Voilà l'explication. Donc, par contre, à ce niveau-là, on est vraiment sur un poste supprimé, un poste créé, pour attacher hors classe. Voilà. Donc, sur ce... Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le rapport numéro 22 porte là aussi sur des créations suspensions. Donc, on est là sur la guérétoise de spectacle. Donc, sur la guérétoise de spectacle, on a notre chargée de com qui travaillait à la fois sur la com à la guérétoise de spectacle et aussi sur l'accueil artistique et le secrétariat. On avait besoin de ressources en matière de com et on avait surtout besoin de doubler le poste de la chargée de com qui était à la mairie pour assurer une continuité. Donc, cette personne est arrivée à la mairie sur un poste de chargée de com, mais bien entendu, elle continue à faire la com de la guérétoise. On a fusionné les deux services com et on a besoin donc de compenser le temps qu'elle ne passe plus à l'accueil artistique et au secrétariat. Donc là, on est sur le remplacement de son poste à la guérétoise. Et on a d'un autre côté un agent qui est parti en disponibilité et donc qu'on doit remplacer. Voilà. Donc, comme d'habitude, on essaye d'étendre un petit peu la palette des niveaux d'emploi sur lesquels on peut recruter pour ne pas être coincé. Et donc, on supprime les grades dont on n'a pas besoin par la suite. Donc, création au 1er novembre pour le poste de chargé de l'accueil artistique et de secrétariat d'un emploi d'agent administratif à temps complet. Et libérer un emploi d'adjoint administratif principal première classe, mais on ne va pas le supprimer tout de suite au cas où on aurait ce type de personne qui se présente pour pouvoir le recruter. Et on supprimera donc après jury un de ces deux postes et un poste donc de chargé des actions culturelles, adjoint administratif à temps complet pour remplacer la personne qui est partie en disponibilité. On reste donc à effectif constant. Deux créations, deux suppressions. C'est bon pour tout le monde? Alors, je vous propose de faire passer... Ah non, ben je vais le faire là. Le dossier 23, c'est le recrutement. Là, on est sur une création de poste pour un directeur pour l'IRFJS. L'IRFJS est en plein travaux et le projet pour cet institut, c'est effectivement de devenir compétitif sur le plan commercial avec l'ambition de recevoir des équipes, y compris des équipes de haut niveau dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et bien après, et de recevoir aussi des sportifs moins aguerris et des familles, mais au moins d'en faire un établissement qui tourne sur le plan budgétaire, et ça correspond à une des préconisations de la Cour des comptes. Donc, dans l'idée de rendre cet établissement compétitif et de développer son aspect commercial, donc on souhaite pouvoir recruter un responsable de l'IRFJS. Ce poste était occupé avant par le directeur cohésion sociale, sport, culture. C'était une direction qui était tentaculaire et qui ne permettait pas de mettre en valeur à son juste niveau l'IRFJS. Donc on vous propose la création au 1er novembre d'un poste d'attaché à temps complet et donc on va effectuer sans tarder le recrutement, si vous le validez, de quelqu'un qui va vraiment avoir un rôle de directeur commercial pour cette structure, qui devrait à terme passer à minima sur un SPIC et ne plus être lié à la collectivité comme elle l'est actuellement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur
Est-ce que le fait d'être attaché sera obligatoire?
Alors, c'est le niveau attaché.
Parce que les attachés commerciaux, j'en connais pas beaucoup. Par contre, je connais des commerciaux.
Oui, alors après, c'est le niveau de recrutement. Ça sera un chargé de mission.
Je connais des établissements, pardon, mais sur la Haute-Vienne, et d'ailleurs, certains étaient sur Guéret avant, qui sont... Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut un commercial. Mais un commercial. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui soit capable de démarcher,
c'est ça.
D'aller chercher, de faire venir. Et c'est vrai que le poste était tentaculaire, j'en assume la remarque, bien volontairement.
Mais l'idée, c'est d'avoir
attaché le niveau... commercial dans l'administration, je ne sais pas trop.
Non, mais l'idée...
Donc c'est juste pour ouvrir.
Oui, si on trouve
un bon commercial... qui a la fibre fonction publique, il ne faut pas s'en priver, quoi, sans qu'il soit attaché.
C'est pour avoir au poste, avoir à la liste des emplois un poste équivalent à un poste d'attaché, parce qu'une rémunération plus basse, on ne trouvera personne. Donc l'idée, c'est d'avoir...
Madame le maire, ma question, c'était, est-ce que quand on met dans les recrutements attachés, on ne peut pas recruter quelqu'un qui n'est pas attaché?
Oui.
Donc il faut prendre la précaution... De sur le côté de attaché ou je sais pas quoi.
Enfin, on est sur
il faut pouvoir ouvrir, enfin, à mon avis. Pardon.
On est sur un CDD, donc on aura un chargé de mission dont le profil sera très commercial, mais qui pourra être rémunéré à hauteur d'un poste
d'attaché. Mais c'est pas pareil de dire rémunéré sur la grille d'attaché ou être attaché.
Alors ça sera rémunéré sur la grille des attachés.
Très bien.
Et ce qu'on souhaite, c'est un vrai profil commercial. Voilà.
Si on veut quelqu'un de qualité, il faut le payer.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce poste, d'autres questions? Alors je le soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors on va vous proposer deux contrats d'apprentissage, donc un premier contrat d'apprentissage au service informatique. Donc on s'est déjà exprimé sur plusieurs conseils municipaux sur l'intérêt de pouvoir offrir à des jeunes ou à des travailleurs handicapés des apprentissages dans notre collectivité. Donc là, on est en fait sur la suite d'un premier apprentissage d'un jeune qui est déjà au service informatique. Ça s'est très bien déroulé et là il est sur un approfondissement, une spécialité en cybersécurité. On vous demande l'autorisation de conclure avec lui un nouveau contrat d'apprentissage sur cette spécialité-là pour 16 mois. Et donc, son école de base, c'est de E-Tech à Bordeaux, c'est une école d'informatique. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. Donc, des oppositions, des abstentions? Merci. Dans le même ordre d'idée, là, on est sur la création d'un contrat d'apprentissage, donc sur l'école maternelle Jacques Prévert, pour donc un jeune qui souhaiterait préparer un CAP petite enfance, donc d'octobre 2021 à juillet 2023, avec en appui le lycée de Bourganeuf. Pas de questions? Donc des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose donc le dossier numéro 26, qui est la mise à disposition de personnel pour l'Union nationale du sport scolaire. Alors en fait, l'UNSS a besoin, pour les activités qui sont réalisées en piscine, de personnes qui soient qualifiées pour surveiller les enfants. Notre piscine étant fermée, il va y avoir, l'éducation nationale va organiser ce qu'on appelle les semaines bleues, c'est-à-dire des stages en piscine sur un peu intensifs qui se dérouleront à la piscine de Feltin. Et donc, pour l'encadrement des jeunes enfants, ils ont besoin de qualifications. Et nous, on a des maîtres nageurs qui sont bien en peine en attendant que la piscine rouvre. Et les accompagnements sur les piscines extérieures ne comblent pas tout leur temps de travail. Donc, ce qu'il est proposé, c'est de mettre à disposition un maître nageur pour l'UNSS, jusqu'à ce que la piscine puisse rouvrir, donc pour l'année scolaire 2021-2022, avec bien entendu le remboursement des salaires, des charges et des frais de déplacement à la mairie de Guéret par l'UNSS.
Très bien.
Pas de questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Alors, ce que je voulais vous proposer, si vous voulez, pour finir avec les ressources humaines, c'est de passer au dossier 28 et de terminer par le dossier qui va nous occuper un petit moment, je pense, du pylône pour TDF. Donc, si vous voulez bien qu'on regarde d'abord le dossier numéro 28, c'est encore une modification au tableau des effectifs. Et là, c'est le recrutement dont on parlait tout à l'heure de chef de projet cœur de ville. Donc là aussi, pour avoir un peu plus de souplesse, le chef de projet cœur de ville qui est parti, donc était attaché principal, et notre souhait c'est de pouvoir ouvrir à la fois un poste d'attaché principal et à la fois un poste d'attaché hors classe pour s'assurer d'une qualification qui soit maximale. Et donc là encore, on supprimera le poste de celui des deux postes dont on ne se servira pas. Voilà. Donc, c'est la manœuvre classique.
Est-ce
donc,
que la participation de l'État
oui,
augmente avec le salaire ?
Absolument. On s'est garanti, on a contacté l'État. Et si on a, comme on a quelqu'un qui a beaucoup de qualifications et d'ancienneté, on s'attend à ce que le salaire soit supérieur. Et l'État, donc, nous suivra, nous donnera une dotation supérieure.
La question, c'était, est-ce que l'État... Mais j'ai la réponse.
Oui, oui. L'État continue à nous aider.
Vous les surveillez, je le demande.
Voilà, donc là, je pense qu'on est... C'est là que vous allez retrouver la différence, monsieur Dubois. Donc là, on est bien sur ancien effectif, un attaché hors classe. Avec le rapport qu'on a vu tout à l'heure, on va être à 2. Et sur les attachés principales, donc on était avant à 4, et là, on sera donc à 5.
Je pense que la personne qui a été recrutée sur cette base, de toute façon.
Oui. Enfin, on se laisse la possibilité d'une évolution de carrière assez rapide, et c'est pour ça. Voilà.
On a tous fait comme ça, hein.
Y a-t-il d'autres questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Alors j'en profite juste pour vous dire, puisque ça a été demandé à plusieurs reprises, qu'au niveau des effectifs, la collectivité, donc sur l'évolution du budget entre juillet 2020 et juillet 2021, le budget général a augmenté de 1,37%. Et au niveau des effectifs, on est à moins 3 agents. Donc on n'a pas augmenté la masse salariale. Par contre, il faut faire attention parce qu'avec l'année Covid, il y a des contrats qui n'ont pas eu besoin d'être renouvelés. Donc c'est à prendre avec... enfin, je pense qu'il va falloir faire une analyse beaucoup plus fine sur une année pleine comme va l'être l'année 2021. Mais en tout cas, sur 2020, on a eu non pas une augmentation, mais une diminution des effectifs de la collectivité. Voilà, on est passé de 270,33 équivalents temps plein à 267,88. Voilà, une toute petite diminution, mais voilà, ça répond aux inquiétudes qui avaient pu être les vôtres.
Ah non, c'est pas les miennes. Hein.
Non, mais globalement,
chaque salarié de cette ville est devant un emploi, et moi, je me féliciterai jamais quand on diminuera les effectifs. Hein. Un chômeur de moins.
Bien, je vous propose maintenant de passer donc au dernier dossier, avant quelques informations, qui est le dossier donc TDF, du pylône TDF, donc dossier qui avait été débattu et retiré du conseil municipal du mois de mai. Donc voilà, donc monsieur Leclerc, je vous repasse la parole sur ce sujet.
Très bien. La ville de Guéret est propriétaire de la parcelle cadastrée, section BY numéro 368, d'une superficie totale de 7175 m², située route des Bains au lieu-dit Pomeille à Guéret. Elle a été acquise par la ville au terme d'un acte authentique du 19 janvier 1974, publié le 1er février 1974. Je passe le volume par courrier du 8 février 2021, pardon, et du 5 mai 2021, la société TDF a fait savoir qu'elle souhaitait prendre à bail un terrain d'une contenance de 300 mètres carrés à prélever sur ladite parcelle afin d'y édifier un site radioélectrique. Il est précisé que TDF quittera son ancien site d'implantation situé sur le terrain de l'ancien château d'eau de Pomeille et procédera au démontage des équipements. Le bail serait conclu pour une période de 20 ans, moyennant le versement d'un loyer annuel de 2000 euros par fixe et de 1000 euros supplémentaires par opérateur, par variable. Le cas échéant, les frais, droits et honoraires de rédaction du bail seront supportés par TDF, y compris les frais de géomètre expert. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la prise à bail de l'emprise concernée en vue de l'implantation d'une station radioélectrique et de valider les termes du bail si annexé. En cas d'avis défavorable du conseil municipal, il est précisé que TDF implantera l'antenne sur le terrain privé d'un propriétaire voisin dont il a déjà obtenu l'accord. L'attention du conseil est attirée sur l'intégration paysagère de cette parcelle compte tenu de l'insuffisance de la végétation et sur l'absence de toute maîtrise du foncier et des conditions d'occupation du terrain privé. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le code général de la propriété des personnes publiques, vu les courriers de TDF du 8 février 2021 et du 5 mai 2021.
Bien, donc on se retrouve pour débattre à nouveau de ce dossier. Personne, je pense, ici n'est favorable à l'implantation sauvage de ces antennes. Par contre, ce qu'on craignait est arrivé, c'est-à-dire que quand on a suspendu ce dossier au mois de mai, TDF s'est adressé aux privés qui ont beaucoup moins d'état d'âme que nous. Et donc l'antenne pourrait être implantée sur un terrain totalement dégagé, contrairement à ce qu'on avait proposé, puisque l'antenne proposée sur le terrain de la mairie était occultée à minima par des arbres. Là, on va être sur une implantation en plein champ. Bon, il est aussi bon de noter que sur ce terrain, il y a, je sais que beaucoup d'entre nous sont sensibles à la flore, on a un arbre magnifique, un châtaignier qui est monumental parce qu'il pousse tout seul sur le terrain et qu'il va devoir être abattu pour mettre cette antenne. Donc non seulement on la verra, mais on va abattre des arbres, c'est ce qui n'était pas le cas de la première implantation. Vous dire aussi qu'on a épluché tous les textes qui étaient en notre possession avec les services, qu'on n'a absolument pas la capacité à s'opposer.